18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Deux heures d'information, d'analyse, de débat à 18h20. Premier rendez-vous, l'interview du soir, prévenir les incidents de paiement des pensions alimentaires. Les CAF, oui les CAF vont désormais jouer un rôle d'intermédiaire. Cela concerne 100 000 familles monoparentales. Qu'en pense Christine Kelly qui s'occupe d'une association de mères isolées? Elle répondra à mes questions dans 20 minutes. 19h30, vous avez la parole. Les ados, comment les gérer? C'est souvent, très souvent même, un casse-tête pour les parents. Plusieurs livres et même des BD donnent des conseils, et vous allez le voir dans cette saison. On en débat avec vous au 39-21. Sébastien Krebs nous a rejoint pour l'information. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. C'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
My challenge is to listen to people much better than I did at the very beginning.
Mon défi, mieux écouter les Français. Emmanuel Macron en anglais dans le texte interview accordé au magazine américain Time, dont il fait la une pour la deuxième fois.
La crise des gilets jaunes m'a forcé à changer, confie le président. Tous les détails dans quelques secondes.
À la une également ce soir, ambiance électrique au tribunal de Bobigny.
Résistance!
Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon massés à l'extérieur et le leader de la France insoumise qui dénonce face au juge un procès politique.
Dans ce journal également, la mort de l'ancien président tunisien Ben Ali. Il avait fui en exil au moment de la révolution en 2011. On y revient longuement avec les grandes voix à partir de 18h30.
La petite enfance, nouveau chantier du gouvernement qui veut établir un parcours des 1000 premiers jours. Ce sera notre coup de fil.
Enfin, ce n'était pas un gros chat mais une panthère noire. Grosse frayeur dans le Nord.
Elle était dans ma cuisine. Après, ma fille, elle l'a vue face à face, quoi. Elle n'était pas méchante, rien du tout.
Le récit complet à la fin du journal. La Bourse de Paris en hausse ce soir de 0,68% à 5 659 points.
Et la tendance météo, c'est avec Anissa.
Eh bien, du vent encore demain sur toute la France et un temps toujours très agité dans le sud.
Europe 1.
Il se retrousse les manches à la une du magazine américain le plus connu au monde. Time consacre à nouveau sa première page à Emmanuel Macron avec une interview fleuve dont une partie a été publiée en vidéo. Le président en anglais, interrogé sur les gilets jaunes notamment, ou encore sur sa petite phrase sur les chômeurs qui doivent traverser la rue et qui fait une forme de mea culpa.
Mon défi, c'est de mieux écouter les gens que je ne l'ai fait au tout début. D'avoir une méthode, de ne pas réformer pour le pays, mais avec le pays. D'où le grand débat, être plus respectueux de ce moment avec les citoyens.
Bonsoir Claudia Bertram.
Bonsoir.
Emmanuel Macron, dans cette interview, Claudia regrette une forme d'impatience. Il va même plus loin sur les gilets jaunes.
Oui, le président confie que la crise des gilets jaunes a été très bonne pour lui, l'obligeant à changer d'attitude face aux Français. Ça m'a rappelé qui je devrais être, ajoute-t-il. Avant de faire l'autocritique de son début de quinquennat, il l'admet, il a été impatient et a pu donner le sentiment de vouloir réformer même contre les gens. Il explique, parfois, mon impatience a été ressentie comme une impatience vis-à-vis des Français. Ce n'est pas le cas. Arrivé à mi-mandat, il estime être dans la vallée de la mort. Les réformes ont été mises en œuvre, mais n'ont pas encore donné leurs résultats. Il dit aussi ne pas tenir compte du surnom de président des riches que certains lui attribuent. C'est le système français qui veut ça, d'après Emmanuel Macron, qui affirme « Dans notre pays, nous aimons être dirigés, mais nous voulons tuer les dirigeants ». Enfin, le président affirme être serein pour l'avenir. Il sait déjà ce qu'il fera lorsque les Français ne voudront plus de lui à l'Élysée. J'écrirai, dit-il.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Et au même moment, c'est le Premier ministre qui jouait sur le terrain cette partition de l'acte 2, dialogue et câlinothérapie avec les maires des petites communes avec lesquelles, on le sait, l'exécutif cherche à se réconcilier.
Edouard Philippe qui assistait Sébastien aux assises des petites villes à Uzès, c'est dans le Gard. Il était face à 400 maires. Nathalie Chevance, avec un message, le gouvernement vous écoute, hein.
Oui, volonté du Premier ministre de faire du cousu-main avec les territoires. C'est l'expression employée par Édouard Philippe pour rassurer les élus des petites villes. Le grand débat est passé par là. Désormais, tout doit partir du terrain, simplifier, rapprocher, faire preuve de souplesse. L'acte 2 du gouvernement sera celui des territoires.
Tout faire pour faciliter l'exercice de votre mission à tous les niveaux. Ça implique aussi d'adapter nos outils aux spécificités de vos villes et non l'inverse, le cousu-main. Je crois beaucoup à ça. C'est ce dont je voulais bénéficier lorsque j'étais maire du Havre. c'est-à-dire non pas d'une politique qui descende toute armée et toute pensée, mais bien de quelque chose qui s'adapte à la réalité du mon terrain.
Et le Premier ministre s'est engagé, la suppression de la taxe d'habitation n'entraînera aucune perte de ressources pour les communes. Autre annonce, la création d'un dispositif pour soutenir les projets portés par les petites villes. Voilà un début de preuve d'amour, a réagi dans la foulée certains maires, mais pour d'autres, les ficelles sont un peu grosses, comme l'estime Jean-Louis Berne, apparenté à LR, maire de Castillon-du-Gard.
Je ressens une chose, c'est que nous sommes à 6 mois des élections. On nous câline. Mais moi, j'attends des choses concrètes sur le terrain. Les services de l'État, en fin de compte, nous bloquent surtout. Je ne vois pas d'avancée significative.
Et les maires des petites villes, qui représentent tout de même 26 millions de Français, entendent bien donner de la voix lors des prochains débats parlementaires.
Nathalie Chevance, dans le Gard, pour Europe 1.
Il est 18h04, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
L'ambiance était électrique, et c'est peu dire. Regardez, c'était aujourd'hui aux abords du palais de justice de Bobigny.
Quelques dizaines de militants de la France insoumise ont fait le déplacement au moment où Jean-Luc Mélenchon était jugé avec 5 de ses proches, dont les députés Alexis Corbière et Bastien Lachaud, jugés pour actes d'intimidation, rébellion et provocation au moment de la perquisition du siège du parti l'an dernier.
Et Chloé Trion, vous avez suivi l'audience pour Europe 1. Jean-Luc Mélenchon s'est longuement expliqué cet après-midi et il martèle sa ligne de défense très politique.
Oui, et c'est même très calmement que Jean-Luc Mélenchon s'est expliqué à la barre avec une grille de lecture effectivement totalement politique de ces perquisitions multiples et simultanées d'octobre 2018 chez lui, chez certains de ses proches et au siège de la France insoumise. Pour son chef, il ne fait en effet aucun doute que la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur étaient, je cite, tapis derrière cette opération. Jean-Luc Mélenchon explique qu'il a donc eu une attitude adaptée au moment à l'agression et à l'humiliation, ce sont ses mots, ressentis à ce moment-là face à des policiers qui ne l'ont pas salué et face à un procureur qui ne s'est pas présenté, dit-il. Donc oui, je parle fort, je suis véhément, mais je n'ai frappé personne, affirme-t-il à la barre. S'ensuit une passe d'armes, combat d'éloquence et d'ironie avec l'un des avocats des policiers qui lui demande s'il s'excuse. En se tournant vers ces derniers, Jean-Luc Mélenchon répond « Je regrette de vous avoir perturbé par mes décibels au point d'avoir 7 jours d'ITT rire dans la salle. » Mais au-delà de l'ironie du ton, les débats se poursuivent cet après-midi sous la forme d'un dialogue de sourds entre deux camps aux logiques et aux raisonnements totalement irréconciliables.
Chloé Triomphe, tribunal correctionnel de Bobigny pour Europe 1. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison, une amende de 150 000 euros et 5 ans d'inéligibilité.
Ouais, où s'arrêtera le tribun Jean-Luc Mélenchon dans cette forme de provocation? On en débat, hein, soyez au rendez-vous avec nos grandes voix, ce sera dès 18h30. Et on découvre ce soir qu'un essai clinique, Sébastien, totalement illégal, a été détecté et interdit. Il était mené dans une abbaye près de Poitiers. Attention, hein, sur 350 malades de Parkinson et d'Alzheimer.
Ils expérimentaient un traitement à base de patch, pas du tout reconnu, sous la direction du professeur Henri Joyeux, un médecin fortement contesté pour ses positions anti-vaccins. L'essai a été interdit par l'agence du médicament et la justice a été saisie. On y revient à 19h.
Une information à présent qui concerne 1 million de familles en France, 1 million de familles monoparentales qui reçoivent des pensions alimentaires.
Et comment assurer que ces aides sont bien versées? C'est tout le problème qui se pose, ça arrive souvent. Les impayés atteignent 30 à 40%. Bonsoir Eve Roger.
Bonsoir.
On s'y arrête un instant avec vous, car à partir de l'année prochaine, un nouveau dispositif va permettre de rendre ces versements automatiques.
Et oui, c'est le principe. À partir du mois de juin 2020, tous les couples qui se séparent pourront bénéficier de ce nouveau dispositif à condition de le demander. Concrètement, ça veut dire que les caisses d'allocation familiale auront le droit de prélever directement la pension alimentaire sur le salaire du père le plus souvent, et les mères n'auront plus à s'en occuper, je dirais même à s'en préoccuper, comme c'est le cas souvent aujourd'hui. Et en 2021, ce dispositif sera étendu à tous, même s'ils sont parés depuis longtemps. Et si l'ex est insolvable, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de payer la pension alimentaire, ce qui arrive s'il a perdu son emploi par exemple, eh bien le parent qui garde les enfants continuera à toucher quand même 115 euros par mois et par enfant, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais très peu de femmes connaissent cette aide, l'allocation de soutien familial, 115 euros, quel que soit le montant de la pension alimentaire.
Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1. Merci.
Et à 18h20, mon invité est Christine Kelly, journaliste et présidente de l'association Cas d'urgence, qui vient justement en aide aux mères isolées. Elle réagira au dispositif.
Votre grand journal du soir se poursuit avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, comment mieux accompagner les parents? Le gouvernement lance une mission sur la petite enfance. Ce sera notre coup de fil.
Et puis, quelle histoire! Une panthère noire qui déambule sur les toits d'Armentières près de Lille. Le récit d'une grosse frayeur à suivre.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 18h10 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Les 1000 premiers jours de la vie des enfants sont-ils déterminants pour leur avenir? C'est ce que pense Emmanuel Macron, qui a confié aujourd'hui une mission au célèbre pédopsychiatre Boris Cyrulnik.
Il va diriger une commission de 17 experts de la petite enfance avec l'idée d'établir un parcours pour guider les parents sur 1000 jours de la grossesse jusqu'aux 2 ans et demi de l'enfant, et cela pour lutter contre les inégalités de naissance.
C'est notre coup de fil du 18h. Bonsoir Adrien Taquet.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Il va consister en quoi, ce parcours des 1000 jours? Concrètement, il va y avoir des étapes obligatoires?
Écoutez, c'est un peu prématuré pour vous répondre, parce que c'est justement tout l'objet de cette commission d'experts que nous avons installée cet après-midi avec le président de la République, qui est justement de nous formuler des préconisations pour ce qui pourrait être un parcours des 1000 premiers jours de l'enfant à l'avenir, avec une approche globale, c'est-à-dire effectivement intégrer la question des premiers jours de l'enfant, mais aussi la question du congé parental, la question des modes de garde, bref, essayer de réfléchir à tout ce qui peut poser question, angoisse parfois pour les parents au cours des 1000 premiers jours de leur enfant.
Ça veut dire qu'on parle de santé, on pense au vaccin, mais c'est pas seulement la santé, c'est ça?
Voilà, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement un aspect médical que l'on connaît, sur lequel la France est plutôt performante, mais on sait que tout l'environnement affectif, l'environnement social, a aussi un impact sur le développement de l'enfant. Et que tout ce qui se passe à cet égard pendant les 1000 premiers jours aura un impact sur l'acquisition de ses connaissances, mais aussi sur ses développements futurs. La composition de cette commission traduit cette approche très globale que nous allons avoir. Pour la première fois, c'est assez novateur dans notre pays.
Oui, alors effectivement, c'est novateur. Ça va changer quoi concrètement pour les parents? Est-ce qu'ils risquent des sanctions s'ils ne respectent pas ce parcours?
Pour l'instant, c'est vous qui parlez de parcours, et on parle de parcours parce qu'il y a une inspiration notamment finlandaise qui a mis en place un parcours qui à partir du 4e mois de l'enfant, effectivement, instaure une quinzaine de rendez-vous avec les parents pour voir dans quel environnement se développe l'enfant. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire qu'on va aboutir sur un parcours de cette nature-là, et encore moins qu'il sera question de sanctions. On n'est pas dans l'injonction de comment on va être un bon parent, mais c'est juste davantage soutenir les parents en leur donnant des informations pour les aider, des conseils, des repères, pour les aider dans une...
Un accompagnement.
Absolument. Vous savez, 50% des parents nous disent qu'il est dur d'être parent.
Merci, voilà. Merci
on
beaucoup.
Les accompagner.
Merci à vous. Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Merci d'avoir été l'invité du 18h ce soir.
Il est 18h12, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
L'actualité à l'étranger maintenant, avec la mort ce soir de celui qui fut renversé par la révolution de Jasmin en Tunisie.
Et l'ancien président Ben Ali est décédé en Arabie Saoudite, où il vivait en exil depuis sa fuite de janvier 2011. Jean-Sébastien Soldaini, avant le printemps arabe, il a donc dirigé la Tunisie d'une main de fer pendant près d'un quart de siècle.
Une main de fer et un système mafieux installé au plus haut sommet de l'État. Ben Ali dirige ce que certains appellent une kleptocratie. Ses opposants font plus simple. Le président voleur, 5 milliards d'euros détournés, un quart des bénéfices du secteur privé, banque, télécom, tourisme. Lui et sa belle famille accaparent tout jusqu'au bulletin de vote. Son dernier score en 2009 dépasse 90% des suffrages. La colère monte jusqu'à la révolte de 2011, poussée par le chômage, la corruption, la rue qui ne lâche pas pendant près d'un mois et la fuite en avion de celui qui avait innové dans l'art du coup d'État, un coup d'État médical pour évincer Habib Bourguiba. Le père de l'indépendance tunisienne est alors président à vie. Mais Zine El Abidine Ben Ali, son premier ministre, ordonne à 7 médecins de déclarer Habib Bourguiba inapte. Son arrivée au pouvoir est empreinte d'optimisme, car il promet l'ouverture. Optimisme de courte durée versus présidence au long cours. 23 ans de pouvoir qui marquent le pays et les esprits au fer rouge. Car Ben Ali laisse encore des partisans derrière lui. Une des candidates à la présidentielle en cours se présentait comme son héritière politique. Elle n'a pas passé le premier tour, classée 10e. Désormais, la question qui se pose, c'est où sera enterré l'ancien président ? À Djeddah, dans l'indifférence, où il est mort, ou bien en Tunisie. Mais difficile d'imaginer de telles funérailles dans son pays, tant il était détesté.
Effectivement, Jean-Sébastien Soldaini, merci.
Et on y revient longuement avec les grandes voix. Et en Israël, c'est toujours une situation extrêmement floue.
Oui, Benjamin Netanyahou a bien tenté, contre toute attente, de tendre la main à son concurrent. L'appelant ce matin à former un gouvernement d'union nationale, fin de non-recevoir de son rival Benny Gantz aujourd'hui.
On ira à Jérusalem d'ailleurs, en direct dans le journal de 19h, Sébastien.
Et puis je voulais qu'on termine, Nathalie, avec cette histoire, cette image. d'un félin qui se balade sur les toits d'un immeuble. Mais non, ce n'était pas un vulgaire chat de gouttière, mais une panthère noire. Ça s'est passé hier soir à Argentière, près de Lille, Armentière, pardon, sous les yeux de Sylvie, qui raconte sa frayeur au micro de Lionel Gougelot.
Elle est descendue, elle était dans ma cuisine. Après, elle était dans mon escalier. Après, ma fille, elle l'a vue face à face, quoi. Et après, bon, elle est remontée, elle était dans le chéneau. Elle était pas méchante, rien du tout, quoi. La preuve, j'ai pu la repousser parce qu'elle voulait rentrer dans la chambre à ma fille. Elle a rien fait du tout, quoi.
Elle voulait rentrer.
Ouais, elle voulait rentrer.
Et à ce moment-là, les pompiers sont intervenus, donc.
Ils n'ont pas cru. Hein. Mais moi, je criais au téléphone. J'ai été mal poulie avec eux parce que là, j'avais peur quand même, quoi. Ma fille, elle dit, ils veulent pas me croire. Je sais quoi. Ils disent que c'était un petit chat. Je passe le moi. Je sais, vous allez bouger votre cul. Je sais, parce que moi, il y a vraiment une panthère noire. Oui, mais il faut nous envoyer une photo. Mais alors, j'ai commencé à m'énerver. Et après, bon, les pompiers sont arrivés. Je pouvais plus sortir de chez moi.
Et là, elle a été entre guillemets neutralisée.
Ouais, ils l'ont mis dans la cage. Et après, bon, ils l'ont ramenée dans un LPA à Lille. On m'a dit que ça sera mieux pour elle, quoi, si elle irait mieux dans un zoo. Comprends pas les gens qui puissent avoir ça chez eux, quoi. Ils sont irresponsables.
Voilà, les pompiers, ils y croyaient pas, ils voulaient pas venir.
Pour cause, hein.
Ils voulaient une photo. Ils sont finalement venus avec un vétérinaire qui a endormi l'animal avec une fléchette anesthésiante. Elle appartenait à un particulier, cette panthère, qui est toujours recherchée. C'est évidemment illégal.
Ouais, on donne quand même des nouvelles du félin. 5 à 6 mois, elle sera âgée de 5 à 6 mois. Elle va bien. Et effectivement, elle devrait être conduite dans un zoo, c'est peut-être déjà le cas. C'était le journal de Sébastien Krebs. Merci à vous, Sébastien.